9 novembre 1989. Il est près de 19h. À Berlin, Günther Schabowski, membre du bureau politique de l'Allemagne de l'Est, lit un communiqué autorisant les voyages à l'étranger. Immédiatement, le message est transmis par les médias. Le mur est ouvert. Les Berlinois de l'Est se rendent au point de passage et vers 23h, ils traversent le No Man's Land qui séparait les deux quartiers de cette ville. Le mur, qui coupait la ville depuis 28 ans, vient de tomber. Dans la nuit, les habitants sortent des pioches et des marteaux pour commencer la destruction de ce mur. Les Allemands appellent ce jour Die Wende, le tournant. Et en effet, moins de 3 semaines plus tard, le chancelier Helmut Kohl propose un plan pour la réunification des deux Allemagnes, projet qui aboutira le 3 octobre 1990, moins d'un an plus tard. C'est aussi pour l'Europe l'ouverture à l'Est qui commence. Dès le milieu des années 90, les anciennes démocraties populaires du bloc soviétique, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, ainsi que les 3 États baltes issus de la décomposition de l'Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, demandent à devenir membres de l'Union européenne. L'Europe va s'agrandir. En 1989, le cardinal Roger Tchegaray était alors président des conseils pontificaux Justice et Paix et Corunum. À ce titre, il était fortement intéressé par ces événements. Il revient pour nous sur cette époque et ses bouleversements, ainsi que sur la place qui a prise l'Église.
J'étais à Rome, déjà depuis quelques années, au service du pape pour tous ces problèmes de paix et de justice. Berlin, j'y avais été avant que le mur soit édifié. Je connaissais donc un peu déjà la configuration et le mur existait depuis 1961. Mais j'étais avant et puis pendant qu'il y avait le mur. J'ai vu le mur. Et là, c'est pas très beau. C'était même honteux pour nous de voir ce mur. Puis alors, quand la nouvelle est arrivée en 89, donc, j'ai vu ça à travers la télévision, le mouvement de presque de folie de liberté que les Berlinois ont manifesté. Je vois, ou plutôt j'entends encore, le Rostropovitch avec son violoncelle. C'était extraordinaire de voir ce grand musicien comme il était. Donc, sur le mur, déjà abattu. Et puis, je n'oublie pas que, ici, au Vatican, dans les jardins du Vatican, il y a un lieu où on conserve une brique de ce mur de Berlin. Et cela prouve que ce mur avait une signification pour tout l'univers.
Dans la chute du mur de Berlin, tout le monde reconnaît le rôle important joué par le pape Jean-Paul II. Une implication au service de la liberté qui remonte déjà au début de son pontificat, comme le rappelle le cardinal Tchegaray.
Jean-Paul II, lui qui était polonais d'origine et qui est resté polonais, il faudrait relire certains de ses discours, et en particulier lors de sa première tournée en Pologne, lorsqu'il devint pape. J'ai pu l'accompagner dans une partie de sa tournée polonaise, une tournée qui était vraiment apostolique, qui était catholique, c'est-à-dire qui, à travers la réalité qu'il a bien défendue dans ses discours, la réalité quand même de son peuple, a élargi les horizons pour faire vraiment de tous les peuples, et du peuple polonais en particulier, vraiment un lieu de fraternité, d'universalité.
Cette universalité dont parle le cardinal, c'est le projet que portait Robert Schuman en 1950 lorsqu'il lançait les bases de la construction européenne. La chute du mur de Berlin a ainsi permis de vivre et de construire plus largement cette universalité. Mais selon le cardinal, il reste encore beaucoup de murs à abattre.
On ne réalise pas ce que c'est que d'élever un mur pour séparer. Un mur est fait pour diviser, pour se protéger. Il y a partout des murs. Et le mur, c'est ce qui enferme, alors que c'est fait pour se sentir libre, mais en fait, le mur enferme celui qui l'a construit dans une sorte de prison intérieure. Berlin, c'était un des premiers murs modernes, si l'on peut dire. Et ce mur de Berlin, quand il est tombé, donc, a été vu comme un grand moment de libération, comme une, presque une nouvelle création création pour rapprocher ceux qui vivaient artificiellement à part, alors que souvent c'était les mêmes familles. Mais hélas, si ce mur matériellement est tombé, il reste qu'encore toujours un mur, je dirais, spirituel, c'est-à-dire que sans mur, les hommes, hélas, vivent trop souvent comme s'il y avait un mur qui les séparait. Beaucoup de progrès a été fait, je ne veux pas être trop pessimiste, mais encore, il y a trop de frontières, sinon administratives, du moins de frontières entre les esprits. Nous entendre, nous comprendre, vivre vraiment ensemble dans la diversité de nos civilisations, de nos églises, est une nécessité.
Le projet de l'Union européenne, c'est de vivre ensemble, au-delà des diversités qui composent les différents pays. Une mission que l'Église soutient, en y apportant un message fort contre les divisions.
L'unité de la famille humaine, qui est le grand rêve, mais plus qu'un rêve, qui pour Dieu est une réalité, puisqu'il a voulu créer l'humanité une. Il a créé une famille, la famille humaine, dans la diversité géographique et aussi dans la diversité des mentalités. L'Église, dont la mission est d'unifier ce qui sépare, je pense que l'Église a un rôle important à jouer, qui est un rôle de paix finalement, un rôle où chacun peut vivre à côté de quelqu'un qui est différent de lui, par la race, par la langue, par l'idéologie même, par la religion. Le rôle de l'Église est immense parce que l'Église n'est pas faite pour s'enfermer sur elle-même, mais au contraire, pour faire de tous les hommes, quels qu'ils soient, vraiment des frères, des sœurs. C'est plus qu'un rêve, c'est une mission. Et alors, quand je dis l'Église, je dis bien sûr, c'est le rôle premier du pape, des évêques, mais les prêtres et les laïcs, là où ils sont, au creux même de leur profession, c'est le rôle de tout homme, de faire tout ce qu'il peut faire pour qu'il n'y ait aucun mur, ni matériel, ni spirituelle.